Simplement une petite boucle. On a terminé la table ronde de ce matin par, sur une prédiction, socialisme ou barbarie. Donc si on est vraiment à cet endroit-là, ce que tous les indicateurs nous affirment jour après jour, en tout cas on sait l'accointance finalement entre la barbarie et le capitalisme. Moi j'étais très très surpris quand j'ai appris dans le film Shoah qu'il y avait 300 entreprises privées qui travaillaient à Auschwitz avec de la main d'œuvre jetable. Je trouve que c'est un point limite. Moi, je n'ai pas compris, quoi, parce que j'avais une certaine représentation de l'extermination des Juifs. Je n'avais pas pensé qu'il y avait 300 entreprises privées qui étaient à l'œuvre, dont certaines encore existent. Donc j'étais vraiment très, très surpris. Et donc, cette alliance, finalement, qui est tout à fait envisageable, qui fonctionne plutôt de façon parfaite, quoi. Sachant que, donc, là je reviens aussi à vitesse, ce qu'il nous reste, le devoir de prophétie, on voit qu'on a démarré il y a 2 ans toute une série d'élections nationales, territoriales, quand on voit que la culture est financée en grande partie par les collectivités locales, intercommunales, etc., toute la série d'élections qui vont avoir lieu là jusqu'à la future présidentielle, si on pose la question, l'alternative socialisme ou barbarie, on n'est pas sûr quand même d'avoir une réponse qui puisse nous rassurer, nous, agents territoriaux, etc., etc., etc. Donc comment, messieurs, voyez-vous les choses? Que va-t-il nous rester? Que va-t-on pouvoir faire? Sur quel levier les choses on va pouvoir résister, tenir? C'est pas que les carottes sont cuites, mais on peut s'apprêter à voir qu'elles vont cuire. Et ça va y avoir des souffrances, des violences, des choses, à quel endroit on peut tenir le coup, quelles sont c'est même plus des prophéties, puisque là, je parle même pas d'un temps, dans 50 ans, c'est l'année prochaine, l'année d'après, même Avignon, on discute avec les gens, voilà, on peut dire Avignon, c'est déjà, ça sera ceci, cela, tu vois. Comment voyez-vous les choses? Et pour l'art, justement, et pour la barbarie.
Alors, je me souviens que Socialisme ou barbarie, c'était le titre d'une revue qui était dirigée par Claude Lefort et Castoriadis. Et Claude Lefort, il a répondu à cette question. Il est sorti de Socialisme ou barbarie. Et la réponse qu'il a donnée, c'était la démocratie. La réponse, me semble-t-il, elle est toujours valable aujourd'hui. Mais la démocratie comment? La démocratie en la pluralisant. Parce que justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à la dessécher un peu. Et il faut justement travailler cette pluralisation de la démocratie pour s'affronter au pouvoir qui veulent s'émanciper du droit commun.
Tout atteste qu'on ne prend pas cette voie. Tout atteste qu'on ne prend absolument pas cette voie.
On ne prend pas cette voie.
Démocratie, on veut bien, mais tout atteste que non.
On ne prend pas cette voie, mais ici et là, vous observerez effectivement des vacuoles de résistance. Ça résiste. Il y a des exemples de travail démocratique très intéressant. Le travail que tu évoquais tout à l'heure en aparté avec ton élu, lorsque vous produisez un projet sur le territoire avec des habitants, etc. Voilà, ça participe aussi ici de cette résistance démocratique. Moi, je réfléchissais, puisque vous m'avez posé la question en amont, à cette problématique de la politisation des politiques culturelles. Et au fond, c'est un sujet extrêmement ambivalent. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises. On pouvait constater, je pense que c'est toujours vrai, une perte d'ambition politique pour la culture. Ça se traduit très concrètement par aussi un fléchissement des moyens affectés à la culture dans les budgets des collectivités. Avec des arguments qui ont l'air très objectifs et très valables, et puis des contraintes aussi que l'on se met sur le dos parce qu'on finit par aussi s'adapter à une pensée politique correcte. Il y a un deuxième élément qui a favorisé cette dépolitisation, c'est la technicisation et la technocratisation des politiques culturelles. Mais on parlait d'évaluation. Le cours de la notion même d'évaluation dans les politiques publiques et dans les politiques culturelles n'est pas celui qu'on a pu imaginer au départ. Quand Patrick Livret produit son rapport sur l'impératif de l'évaluation dans les politiques publiques, ce qu'il dit à l'époque, en 89, c'est que toute évaluation, pour être valable, doit être partagée, doit être co-construite. Il le dit déjà à ce moment-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais au fond, on a suivi le mauvais chemin. C'est-à-dire, au lieu d'évaluer ce qui compte, on évalue ce que l'on compte. Voilà, c'est sa formule. Elle est très juste et très profonde. Elle dit très bien l'ornière dans laquelle on est tombé. Et puis, parallèlement, cette technicisation, elle place aussi les élus dans une sale position. Parce que les politiques culturelles sont beaucoup plus complexes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. C'était plus facile, d'une certaine façon, d'être pionnier, d'inventer avec des nouveaux moyens. Aujourd'hui, les contraintes sont extrêmement fortes et les élus, on leur demande un nouvel horizon, un nouvel élan, une nouvelle ambition, sauf qu'il faut aussi qu'ils maîtrisent un certain nombre d'outils pour pouvoir fabriquer cette... Et ils ne peuvent évidemment pas faire tout seuls. C'est pour ça qu'il faut partager les diagnostics et travailler ensemble au diagnostic. Après, il y a aussi la prééminence des impératifs de gestion. Alors, totalement dévitalisé, je dirais, les politiques, enfin, en tout cas en partie des politiques culturelles. Et malheureusement, y compris les cadres du ministère de la Culture ont été totalement victimes de ce processus, avec la mise en place de la RGPP, de la LOLF, etc. Toute leur énergie est passée dans l'élaboration d'indicateurs qu'on fabriquait de façon interministérielle, etc., à n'en pas finir. Et vous-même, moi-même, je dois répondre à l'injonction de fabriquer des indicateurs, et franchement, des fois, des indicateurs qu'on fabrique, ils sont débiles. Je suis bien tranquille qu'aucun algorithme n'est capable d'analyser la multitude des indicateurs dont on dispose aujourd'hui pour ne rien dire. Je pense qu'on en est
tous là.
Alors, parmi aussi les autres raisons de cette dépolitisation, on pourrait dire qu'il y a un manque d'élan collectif. Mais là, c'est un argument paradoxal. Parce que, vous voyez, dans les années 80, on disait, oui, mais l'État donne l'élan. C'est à lui de donner l'élan aux politiques culturelles. On oublie au passage que l'élan, il a été aussi impulsé par les collectivités et les acteurs locaux eux-mêmes, en même temps, ou même un peu avant la mise en place du ministère de Et cette question de l'élan collectif, je dis qu'elle est... Cet appel à un élan collectif nouveau, il est paradoxal parce que est-ce que cet élan doit provenir de l'État? Est-ce qu'on est encore à ce point jacobin qu'il faut tout attendre que la chose vienne dedans? Bien sûr, il y a aussi le rôle des industries culturelles dans cette dépolitisation. Je l'analyse pas de façon morale, hein, pour le coup. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un développement de la culture numérique qui perturbe et qui questionne si la pertinence des politiques culturelles à certains endroits où on recompose, où on disparaît. Les bibliothèques, elles recomposent, elles se réinventent, par exemple en tiers-lieu, elles font des tas de choses très différentes, et finalement, elles ressemblent de plus en plus, de mon point de vue, à des nouvelles maisons de culture. Et si elles se réinventent comme cela, elles peuvent éventuellement suivre leur tâche. Et puis, bien sûr, il y a la progression de ces idées libérales. Moi, je suis un mauvais prophète. J'imaginais que le temps du libéralisme toucherait bientôt à sa fin et que le temps d'une régulation, je ne pense pas à la fin du capitalisme, mais je pense d'une régulation beaucoup plus importante pouvait advenir. Pas de trace, pas comme ça que les choses se passent pour l'instant. Mais il y a en effet une progression des idées libérales avec l'illusion que la libre concurrence, eh bien, elle régule les vrais besoins des populations. Et donc, ça renvoie évidemment la politique au calendrier. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui... Et puis, vous l'avez aussi effleuré, il y a cette obsession de l'attractivité, alors particulièrement au niveau des métropoles. Les métropoles, c'est-à-dire ces grosses intercommunalités, en réalité, pour la plupart d'entre elles, sont très obnubilées par effectivement, qu'est-ce que ça rapporte au territoire, combien d'emplois, est-ce que ça fait rayonner le territoire, etc. On comprend d'une certaine façon, cette obsession des élus qui voient aussi que leur territoire peut, peut tout à coup décrocher. Et donc, il y a une angoisse, il y a une anxiété, et il y a la recherche éperdue de solutions. Et ces solutions, parfois, on croit les trouver dans le financement de projets qui se veulent attractifs avec force marketing derrière. Donc, il y a tout ça. Mais, parallèlement, il y a aussi des phénomènes de politisation des politiques culturelles qui sont intéressants à relever. Parfois, ils sont induits, parfois ils sont insidieux, parfois ils sont indirects, parfois ils sont directs, ces effets. Par exemple, les dispositifs techniques que l'on met en place dans les politiques culturelles, ils ont des incidences politiques très concrètes. Il ne suffit pas de mettre de l'argent dans les politiques culturelles, parce qu'on peut, où on le met, comment on le met, est-ce qu'on réfléchit aux inégalités territoriales, aux inégalités sociales. Moi je crois malheureusement que, j'aime pas bien cette expression, mais que des non-publics, pas de non-publics, hein, on se comprend. Enfin, les personnes qui participent moins intensément à la vie culturelle sont légion encore dans notre pays. Et il y a des gens qui restent totalement à l'écart de toute proposition culturelle formulée par les politiques publiques. Ça, alors, par contre, les statistiques nous disent. Il y a une frange de 15% de la population, vous pouvez faire tout ce que vous voulez aujourd'hui. C'est-à-dire leur offrir la gratuité, leur dire venez au théâtre, à l'opéra, au cinéma, je ne sais où, qu'ils ne sont plus capables de se mobiliser, de se déplacer et de se dire c'est pour moi. Donc là, il y a un phénomène massif, et d'une certaine façon, les Gilets jaunes nous racontent cette histoire-là, du fait qu'à aucun moment le sujet de la culture n'a été mis en valeur par le discours des Gilets jaunes. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que l'impératif, par exemple, de la participation des habitants à la vie culturelle, ça devient quelque chose de plus globalement partagé dans le monde des acteurs culturels. On se demande non seulement comment élargir l'accès à la culture dans un sens classique, et ce sens classique, moi, je ne mets pas à la poubelle, je ne mets pas à la poubelle la notion de démocratisation de la culture. En revanche, bien sûr qu'il faut aller, il faut continuer d'aller au-delà, d'élargir les formes de participation à la vie culturelle, de travailler sur la reconnaissance des pratiquants amateurs dans les politiques culturelles, dans le droit commun des politiques culturelles. C'est-à-dire que dans ce sens-là, j'ai écrit un petit papier pour fêter le 60e anniversaire du ministère de la Culture dans le journal du personnel du ministère pour dire que, au fond, s'il fallait un nouvel objectif au niveau de l'État, eh bien, il faudrait recomposer un ministère de la Culture qui associe jeunesse, éducation populaire et culture. Et vous savez, c'est assez drôle d'affirmer cela aujourd'hui, parce qu'il m'est arrivé d'interroger un certain nombre d'anciens ministres de la culture. Vous savez, les ministres, après Lang, ils sont restés à peu près 2 ans en charge.
C'est-à-dire moins de 2 ans à part Frédéric Mitterrand.
Voilà. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour ne rien faire et ne pas entreprendre de grandes décisions. Ça, ça aurait été un grand projet politique. Celui-là, personne n'a été capable de l'entrevoir ou de le réaliser. Sauf que ces ministres que j'ai interrogés après, bien après leur mandat, c'est eux qui disent aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait refaire. C'est l'éducation artistique. Bien sûr, l'éducation artistique, nous sommes tous d'accord. Mais c'est la jeunesse, c'est l'éducation artistique, c'est l'éducation populaire, c'est la culture qu'il faut remarier. Parce qu'on a dissocié les choses de façon totalement idéologique. Et on ne s'en remet toujours pas d'une certaine façon. Bon, je pourrais encore parler d'un certain nombre de résistances aussi à la pensée politiquement correcte, à différentes formes de censure, parce qu'il y a de la censure aussi parfois dans les politiques culturelles. Après les élections de 2014 dans un certain nombre de villes, on a vu des théâtres, des bibliothèques remises en cause par de nouveaux élus qui ont cru que leur rôle, c'était de mettre à la porte tel metteur en scène parce qu'il ne portait pas un nom de chez nous, ou de décider de la petite acquisition de la bibliothèque et de virer, par exemple, tout ce qui pouvait représenter d'une façon ou d'une autre la diversité culturelle. On n'est pas à l'abri de cela. On n'en est pas à l'abri d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, mais on n'est pas non plus à l'abri de cela constamment. Et puis on voit bien qu'on a quand même l'ombre portée du Front National sur les territoires. Ça peut basculer d'un rien. D'un rien. Nous sommes à un cheveu de la possibilité que le Front National bien remporte des élections au niveau régional, au niveau local. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai parfois des débats. Si vous me demandez comment positionner l'État dans les années à venir au niveau territorial, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut absolument préserver les DRAC au niveau territorial. Et surtout, ne pas penser qu'il faut faire des économies d'échelle et confier les responsabilités des DRAC, par exemple, aux régions. Et pour une raison avant tout politique, c'est que si demain, une région tombe au niveau national et des communes également, il n'y a plus de régulation possible au niveau territorial.
Enfin, on va dans ce sens-là. Les expérimentations sont en cours.
Alors, il y a des expérimentations en cours. Pour moi, ce n'est pas fatal. Il faut être extrêmement vigilant. Et il faut alerter, il faut se battre. Mais il y a une responsabilité des acteurs culturels aussi. Parce que c'est facile. Dans les politiques culturelles, la plupart du temps, les acteurs se tournent vers l'État et font la critique de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Bien sûr qu'on a raison, mais on se tourne toujours vers celui auquel on prête le plus de pouvoir. Mais quelle est notre responsabilité aussi? Est-ce qu'il s'agit d'affaiblir le ministère et ses services, ou est-ce qu'il s'agit de trouver des arguments pour le renforcer, et le renforcer territorialement, et renforcer évidemment la régulation que le ministère n'arrive pas à mettre en place de façon très efficace, même si on augmente un peu plus les budgets des DRAC ces dernières années. Puis je vois aussi un autre phénomène de politisation, c'est le souci d'un certain nombre d'artistes. C'est indirect, cela, d'être plus en phase avec l'imitation du monde et de faire des propositions artistiques qui font écho d'une façon ou d'une autre à ces mutations que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas directement politique, mais ça l'est quand même.